Matt. Christophe Ondelatte.
Je vous raconte une histoire de médecin légiste que je tire du livre du docteur Michel Sapané chez Plomb, en direct de la morgue. Voici l'histoire d'une dame que l'on retrouve dans un congélateur. Je l'ai écrite avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Aujourd'hui, j'ai passé mon après-midi au palais de justice, dans une affaire de dentiste massacreur. Un dentiste qui a décidé de couronner toutes les dents d'une patiente qui n'en avait pas besoin. Eh oui, je fais aussi ce genre de choses. Je crois que ma journée est terminée quand le standard de l'hôpital m'appelle.
Docteur Sapané, j'ai un appel de la gendarmerie de Saujon pour vous.
D'accord, je prends. Bizarre, ça. D'habitude, les gendarmes m'appellent sur mon portable.
Bonjour, docteur. La brigade territoriale de Saujon à l'appareil. Dites-moi, on a vu avec la brigade de recherche, celle qui nous a dit de vous appeler. Voilà, on a un corps à vous envoyer pour un examen externe et peut-être même pour une autopsie. Et on voudrait le faire avant le week-end.
D'accord. Mais en fait, ordinaire, vous devez envoyer une réquisition à mon secrétariat. Hein.
C'est-à-dire, c'est un peu spécial, docteur.
Ah bon? Spécial comment?
Eh bien, la victime est une dame de 65 ans, très déprimée, avec enfant, un conflit familial sur la succession de son mari décédé il y a peu. Et on a des doutes sur les causes de la mort. Et donc, on voudrait vous transférer le corps, mais on ne sait pas trop comment faire.
Pourquoi vous savez pas comment faire? Il est en petits morceaux?
Non, il est entier. Mais il est dans un congélateur.
C'est pas un congélateur à tiroir, j'espère. J'entends à l'autre bout le rire crispé du gendarme, qui enchaîne.
Donc c'est une dame qui ne donnait plus de nouvelles, et le notaire chargé de la succession de son mari s'est inquiété, quoi. Et donc il nous a prévenus. On a trouvé la maison vide avec du courrier vieux de 15 jours dans la boîte aux lettres. Et puis la patrouille, sur le moment, a fouillé la maison et ils n'ont rien trouvé. Et puis la semaine suivante, elle avait toujours pas donné de nouvelles. Et donc ils y sont retournés. Et là, ils ont tout refouillé. Et cette fois-là, ils ont eu l'idée d'ouvrir un petit congélateur dans l'arrière-cuisine. Et elle était là, quoi.
Vous soupçonnez les enfants?
On sait pas. Le parquet réclame un examen du corps au scanner et éventuellement une autopsie.
Bon, ben, très bien, écoutez. Il faut nous la transférer.
Comment est-ce que vous voulez qu'on procède?
Eh ben, c'est simple, hein, vous m'envoyez le congélateur.
C'est-à-dire qu'il rentre pas dans le fourgon mortuaire?
Ben, écoutez, trouvez un autre moyen. Le lendemain, le congélateur trône dans la morgue de l'hôpital. Branché, on entend le moteur qui ronronne. Et tout le service est là pour assister à l'ouverture. Je brise les scellés apposés par les gendarmes. Je soulève le couvercle. Et là apparaît une chevelure grisonnante. Et puis une tête penchée en avant sur un corps recroquevillé, dur comme du bois. Et là, tout le monde a son avis. Ben chef, moi je dis, on le sort. Et on le laisse dans la pièce, quoi. Mais non. On le sort et on le met à décongeler au frigo. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'on débranche juste le congélo. Cette dernière suggestion semble finalement faire l'unanimité. Et donc le congélo et son contenu sont placés en salle d'autopsie, couvercle fermé, et prise débranchée, le temps du week-end. Au revoir, mamie. Et à lundi. Ce week-end-là, je dois recevoir mes beaux-parents, dimanche midi. Et j'ai prévu de leur faire un cuisseau de sanglier. Et mon idée est de le cuire à basse température parce que ma belle-mère est toujours en retard. Et donc c'est le seul moyen d'être à peu près raccord. Et donc la veille, le samedi matin, je sors le cuisseau du congélateur. Et je le mets à décongeler dans une marinade, en me disant, vu son poids, il sera décongelé en fin d'après-midi. Tu parles ? Je dois attendre jusqu'au soir. Et là, je me dis, la mamie, ça risque d'être pareil. Ça sera plus long que prévu. Le lundi matin, j'arrive à l'hôpital. Bon, vous êtes allé voir ce que ça donnait, là, la décongélation de la mamie? Nous allons voir. Elle est toujours raide comme la justice. Il faut dire que le congélateur est tropicalisé. Il est capable de conserver le froid pendant plus de 48 heures. Bon, ben, il n'y a plus qu'à laisser le couvercle grand ouvert, hein, sinon on va pas y arriver. Hein. 3 jours plus tard, le haut du corps est décongelé, mais pas le bas. Bon, ben, il n'y a plus qu'une seule solution. Hein. Faut la sortir de là. Les agents d'amphithéâtre prennent les choses en main. Ils glissent des sangles sous ses genoux et sous ses bras et ils la tirent. Et elle apparaît, les bras croisés sur sa robe de chambre. Elle porte encore ses boucles d'oreilles et son alliance. Elle a les yeux fermés et le visage plutôt serein. Ils la mettent sur un chariot et la dame passe une semaine entière en salle d'autopsie à 16 degrés. Et le vendredi soir, enfin, on peut allonger le corps et le glisser dans un frigo. Et le gendarme de Saujon qui me relance.
Alors, cette autopsie, docteur, où est-ce qu'on en est?
Eh bien, écoutez, on a eu un petit peu de mal à la décongeler. Ça a été assez long. Mais là, c'est bon, hein, je m'y mets dès lundi. Le lundi, l'autopsie est bouclée sans encombre. Aucun signe particulier, aucune lésion. Et dans le sang, une dose massive de somnifères. Ça ressemble à un suicide. Et donc, à la fin, je me tourne vers le gendarme. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait du congélateur, là? On le rend à la famille? Mais la famille refuse. Vous n'avez qu'à le garder. Bon, on lui trouvera bien un usage. Et donc, l'agent d'amphithéâtre le prend pour le nettoyer. Et là, il enlève un drap qui traîne au fond du coffre. Et ce faisant, il découvre une pochette plastique qui contient une lettre manuscrite. « Mes enfants, excusez-moi pour la mauvaise surprise. Depuis que mon époux est parti, la vie n'est plus la même. Je n'ai plus envie de poursuivre. Je me suis mise dans le congélateur. Je donne mon corps à la science. Récupérez les bijoux. » On prévient tout de suite les gendarmes. Ils comparent l'écriture à d'autres documents que cette dame a pu écrire. Et cette lettre, c'est bien elle. C'était donc un suicide. Et le procureur ordonne la remise de la dépouille à la famille. Et depuis, eh ben le congélateur est toujours là. Il ronronne dans un coin du service. On s'en sert. Docteur Saponnet, j'ai tiré cette histoire de votre livre En direct de la mort. Il est toujours là? Parce que ça, c'est une affaire qui date des années 2000.
Ah ben, un congélateur, c'est une vie longue. Hein.
Ouais. Donc il est toujours là.
Oui, c'est un très bon congélateur.
Qu'est-ce qu'on conserve dans un congélateur en
dans les congélateurs, légale? Alors, en médecine légale, on a essentiellement des congélateurs à tiroirs pour conserver des petits prélèvements, essentiellement de génétique, mais aussi des petits fragments d'organes.
Parce que combien de temps peut-on conserver un corps en chambre froide?
La chambre froide, c'est inférieur à 5 degrés. C'est exactement comme les chambres froides industrielles de conservation.
Donc, on n'est pas congelé, là, on est...
Ah non. La congélation, elle a des inconvénients parce qu'elle fait éclater les cellules. Donc, l'examen microscopique des prélèvements qu'on peut faire sur un corps qui a été congelé n'ont pas du tout la même qualité
que sur un
corps en chambre froide.
Donc, mais combien de temps ça peut tenir en chambre froide?
Oh, quelques jours. Après, ça peut être plus long. Hein, mais c'est quelques jours. Après, ça dépend. Est-ce que c'est un corps qui est gras? Est-ce que la putréfaction est déjà avancée, etc.?
Parce que je suppose qu'il arrive que, notamment en matière de suicide, on vous donne des corps qu'on n'arrive pas à identifier et puis qu'on n'identifiera jamais. Donc, à partir de quand est-ce que il est décidé qu'on garde pas le corps en chambre froide et on l'inhume?
Nous, il nous faut un document essentiel qui est réalisé par le parquet, par le procureur, c'est le permis d'inhumer.
Oui.
Alors le permis d'inhumer, c'est l'autorisation donnée par la justice de reprendre les opérations funéraires, quelles qu'elles soient. C'est ça qui bloque de temps en temps. Et on peut avoir des magistrats qui pensent qu'il est utile de garder le corps après l'autopsie au cas où ils auraient besoin de renseignements complémentaires.
Alors j'essaie toujours de me mettre à la place des familles. On fait toujours une autopsie en cas de suicide, c'est-à-dire que la famille se prend le double, trauma du suicide et de l'autopsie.
Non, on fait un examen médico-légal.
Externe.
Alors, on fait des investigations médico-légales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est des scientifiques qui travaillent avec les moyens dont on peut disposer, on va faire le scanner avant.
Oui.
On va faire éventuellement une IRM, mais pas toujours.
Oui.
Ça, c'est plus difficile. On commence à en faire, mais c'est quand même...
Parce qu'il y a des listes d'attente.
Et puis, c'est pas les mêmes problèmes. Faut pas qu'il y ait corps métallique étranger, parce que sinon...
Donc si on a une prothèse, ça le fait pas.
C'est surtout les projectiles en fer et acier, tout ce qui
D'accord.
est magnétisable
ouais.
peut être dangereux pour la salle d'examen.
Mmh.
Voilà. Donc faut quand même poser les indications et puis ça prend du temps même si on a des IRM à disposition. Et donc si on a le scanner avant, un examen externe, ça on le fait toujours, c'est-à-dire qu'on déshabille la victime et on examine tout de la tête aux pieds. Et si on a une cohérence entre ce que nous racontent les enquêteurs, les constatations sur place, et ce qu'on constate sur le corps et le scanner, bon, bah, à la fin, on n'a pas besoin d'une autopsie.
Mmh. À l'œil.
À l'œil.
Sans analyse.
Déjà à l'œil, oui. Et là, on va avoir un signe d'appel majeur.
Mmh.
Après, on va aller voir, par exemple, disséquer un cou. Il faut savoir que vous pouvez soit disséquer le cou et vous voyez des visus, les images des petits hématomes, les fractures, les traces traumatiques sur le larynx. Mais si vous avez une IRM, vous avez les mêmes images. C'est pas le même signal. Hein, c'est un signal avec des zones qui vont apparaître blanches ou plus denses, mais ça vous renseigne de la même façon. On voit exactement de la même façon.
Vous êtes par exemple
capable... Donc l'IRM, c'est un examen, il va falloir un jour ou l'autre, je plaide pour médecine légale 2.0, quoi, parce que on ne va pas rester pendant 20 ans à continuer à ouvrir les corps comme on le fait maintenant. Ce n'est pas possible
pour les passer.
Familles. Il y a des fois où on peut s'en passer. Voilà. Alors il y a les fois où on peut s'en passer, il y a les fois où on peut faire un raisonnement qui serait j'ouvre certaines régions dont j'ai besoin et les autres je les laisse de côté parce que j'ai la preuve qu'il n'y a rien sur l'IRM et sur le scanner.
Mmh.
Si vous faites un scanner cérébral plus une IRM cérébrale plus une artériographie, vous voyez bien qu'il n'y a rien dans le cerveau quand même. Donc est-ce utile d'ouvrir la boîte crânienne systématiquement? Non. Sauf que la difficulté, elle est que les recommandations, elles datent de 1999,
oui.
avant l'utilisation des scanners, avant l'utilisation de l'IRM.
Ouvrez.
Et donc il n'y avait qu'une solution, il fallait ouvrir. Donc les bonnes pratiques, c'est ouvrir. Mais non, c'était les bonnes pratiques de jadis. Maintenant, il faut évoluer. Sauf que pour ça, il faut faire avancer les mentalités. Premièrement, d'abord chez les donneurs d'ordre, c'est-à-dire le procureur, voilà, il faut qu'ils comprennent l'intérêt. Deuxièmement, il y a un problème financier, parce que les autopsies, c'est un forfait. Donc, on a un forfait pour un volume d'activité.
C'est combien, pour passer?
Moins de 300 autopsies, c'est le budget pour moins de 300 autopsies, c'est de l'ordre de 400 000 euros.
D'accord.
Fonctionnement et investissement, tout compris. Donc qu'on en fasse plus de 300 autopsies, on va passer à un autre budget. Mais c'est pas parce que vous en avez 310.
Poitiers, vous en avez plus de 300.
Oui, non, mais c'est à la marge puisque c'est une année. On tourne autour de 300, on va dire. On va pas avoir.
Il faudra donc vous passer... avez 400 000 euros de budget pour faire tourner
ouais,
votre compris l'utilisation de
tout.
L'IRM du
ah,
scanner.
Non.
Ah.
Or.
Uniquement pour les salles d'autopsie.
L'acte d'autopsie et tout ce qui va avec. Toutes les analyses, tous les examens complémentaires, il faut le payer plus. Et donc c'est ça le problème, parce que il nous faudrait un budget qui intègre tout ça. Et là, on serait comme en Suisse, quoi.
Géreriez vous-même.
Et qu'on gérerait nous-mêmes.
Les gendarmes et policiers, ça aussi c'est une question technique générale, assistent systématiquement aux autopsies.
Alors c'était le cas jadis. Mais depuis la réforme de 2011, il y a eu un problème, c'est qu'on amène tous les corps sur le CHU de Poitiers pour toute la région, quatre
oui.
départements.
Mmh.
Donc ça veut dire que l'officier de police judiciaire doit venir à Poitiers. Un gars qui était à La Rochelle, jadis, il y avait des autopsies à La Rochelle.
Mmh.
Donc il y a des frais de déplacement de corps, et il y a des frais de déplacement d'enquêteurs. Et moi, pour moi, à mon avis, il n'est pas légitime de coincer un enquêteur, enfin deux enquêteurs
pour un suicide.
Pour un suicide dans une salle d'autopsie pendant toute une journée, enfin pendant toute une matinée, plus le temps de trajet, la valeur ajoutée, elle est nulle. Bon, à charge pour nous de récupérer l'information, ce qui n'est pas toujours facile, mais on a instauré des procédures pour récupérer l'information de façon correcte. Alors il y avait un autre obstacle à ça, c'est que jusqu'à mars de l'an dernier, les médecins légistes ne pouvaient pas faire les scellés. Un scellé, c'est un acte judiciaire qui est prévu dans le code de procédure, et il fallait la qualité d'officier de police judiciaire pour faire un scellé.
Pour mettre le tampon, quoi.
Voilà. Alors, on avait la capacité à ouvrir un scellé et le refermer, mais on n'avait pas la capacité à le faire.
À le poser.
Or, il y a eu un changement dans le code de procédure pénale pour tenir compte des réalités de terrain qui autorise le médecin légiste à faire lui-même les scellés. Donc, on n'a plus besoin de l'OPJ en salle d'autopsie, enfin des enquêteurs en salle d'autopsie. On la demande quand même pour tout ce qui est criminel ou hautement suspect, parce que là, on a besoin, je crois, que c'est plus sécurisé.
Mais en théorie, vous pourriez vous en passer.
Mais en théorie, on pourrait s'en passer.
La question de... je peux le dire là, je vous ai vu autopsier plusieurs fois des cadavres. Ça ne m'a pas, à titre personnel, posé de problème que d'assister à des autopsies. Mais je sais que des gens ne le supporteraient pas. Quelle idée est-ce que vous vous êtes faite là-dessus ? Il y a des gens capables de supporter ça, d'autres pas capables, ou est-ce que c'est une question d'habitude ? Mais moi, ça n'était pas une question d'habitude.
Il y a les personnalités de tout un chacun, mais après, on se fait toujours rattraper à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que même quand vous avez une grosse expérience, il y a un jour où vous vous retrouvez dans une situation qui n'a rien à voir avec...
Ou l'émotion vous rattrape.
Où l'émotion vous rattrape, et des choses que vous aviez pas, dont vous aviez pas eu conscience au moment de l'autopsie, vous les vivez, je sais pas, deux ans après, à propos d'une image qui vous arrive devant les yeux, ou des choses comme ça. Non, c'est très, c'est vrai que l'expérience, la pratique, ça fait que on arrive à.
Parce que chez les policiers, les gendarmes, je pense que quand ils décident de faire policier ou gendarme, ils pensent pas qu'à un moment donné de leur carrière, ils vont se retrouver à assister à une autopsie.
Et vous savez, le médecin qui commence sa carrière, il pense pas à tout ce qui va lui tomber dessus et pour lequel il n'est pas préparé.
Il s'attend quand même à avoir un peu de barbac, le médecin. Tandis que vous remarquez, le policier gendarme.
Non, aussi. Mais le médecin, il vous soigne normalement, il vous coupe pas en morceaux.
Michel Sapanet, je vous remercie de raconter toutes vos histoires dans des livres. Il s'appelle En direct de la morgue. Il est publié chez Plomb.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.